Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Leçon d'un siècle de vie, par Edgar Morin. Au crépuscule de sa vie, Edgar Morin est demeuré préoccupé par les tourments de son temps. Ce penseur humaniste a été témoin, acteur des errances d'espoir, crises et dérèglements de son siècle. Il nous transmet dans ce livre les enseignements tirés de son expérience centenaire de la complexité humaine. Edgar Morin est né le 8 juillet 1921 à Paris, dans le 9e arrondissement. Il naît sous le nom de David Salomon Naoun le 8 juillet 1921 et changera officiellement de prénom en 1993. Son père, Vidal Naoun, est un commerçant en bonneterie dans le quartier du Sentier à Paris. Ses parents sont des juifs grecs originaires de Salonique et de lointaine ascendance italienne. Edgar Morin grandit dans un environnement non pratiquant, sa famille étant moderne et laïcisée depuis trois générations. Sa mère meurt en 1931, alors qu'il n'est âgé que de 10 ans. En 1936, pendant la guerre d'Espagne, son premier acte politique est d'intégrer une organisation libertaire, Solidarité internationale antifasciste, pour préparer des colis à destination de l'Espagne républicaine. En 1938, il rejoint les rangs du Parti frontiste, une petite formation de la gauche pacifiste et antifasciste. Il est membre du Parti communiste français à partir de 1941, Il quitte Paris pour la zone libre, où il continue ses études de droit à l'université du Toulouse-Capitole. Il entre en 1942 dans la résistance communiste au sein des Forces unies de la jeunesse patriotique. Il intègre ensuite le mouvement de Michel Caillaud, le mouvement de résistance des prisonniers de guerre et déportés. En 1943, il est commandant dans les forces françaises combattantes et est homologué comme lieutenant. Son mouvement fusionne avec celui de François Mitterrand. Il devient le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Il adopte alors le pseudonyme de Morin. L'anecdote veut que lors d'une réunion de résistants à Toulouse, le jeune Edgar se présente sous le nom d'Edgar Magnin, en référence directe au personnage de Malraux dans l'Espoir. Mais une camarade comprit Morin et il ne chercha pas à rectifier. En 1945, Edgar Morin devient attaché à l'état-major de la première armée française en Allemagne, puis chef du bureau propagande dans le gouvernement militaire français en 1946. Il écrit à cette époque l'année zéro de l'Allemagne, où il dresse un état des lieux de l'Allemagne, insistant sur l'état mental du peuple vaincu, un état de somnambulisme, en proie à la faim et aux rumeurs. Maurice Thorez l'invite à écrire dans l'hebdomadaire Les Lettres françaises. En 1948 et 1949, il écrit dans la rubrique « Art et spectacle du patriote résistant », alors bimensuel, édité par la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, avant d'en partir, avec Robert Antel, à la suite de divergences avec le Parti communiste français. Membre du parti depuis 1941, il s'en éloigne à partir de 1949 et en est exclu en 1951. Avec l'appui de Maurice Merleau-Ponty, de Vladimir Jankélévitch, il entre en 1950 au CNRS et fait partie du Centre d'études sociologiques dirigé par Georges Friedman. Il cofonde la revue Argument en 1956. En 1955, il est l'un des quatre animateurs du comité contre la guerre d'Algérie. Il défend ainsi en particulier Messali Hadj. Mais contrairement à Jean-Paul Sartre et André Breton, ou encore ses amis Marguerite Duras et Dionys Mascolo, il ne signe pas la déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, dit « Manifeste des 121 », publié en septembre 1960 dans le journal Vérité-Liberté. Comme il pense que l'urgence est d'éviter l'installation de dictatures en France et en Algérie, il lance avec Claude Lefort, Maurice Merleau-Ponty et Roland Barthes un appel pour l'urgence des négociations. En 1965, il participe à une étude transdisciplinaire au sein d'une vaste recherche mobilisant de multiples disciplines, sur une commune en Bretagne, publiée sous le nom de « La métamorphose » de Plodémé en 1967. La commune finistérienne étant celle de Plozévette, où il séjourne, près de Nantes. Ce fut un des premiers essais d'ethnologie dans la société française contemporaine. Il s'intéresse très vite aux pratiques culturelles, qui sont encore émergentes et mal considérées par les intellectuels. L'Esprit du Temps, 1960, La Rumeur d'Orléans, 1969. Durant les années 1960, il part près de 2 ans en Amérique latine, où il enseigne à la Faculté latino-américaine des sciences sociales de Santiago du Chili. En 1969, il est invité à l'Institut Salk de San Diego. Il y retrouve Jacques Monod, l'auteur du « Hasard et la nécessité » et conçoit les fondements de la pensée complexe de ce qui deviendra sa méthode. Lors d'un séjour aux États-Unis durant les années 1960, Edgar Morin découvre les sciences du vivant, l'importance de la biologie, de l'éthologie animale, la cybernétique et la pensée systémique. C'est le début d'une renaissance intellectuelle, racontée dans son journal Le Vif du Sujet. Edgar Morin décide alors de donner un nouveau cours à sa pensée et de se consacrer entièrement à la conception d'une anthropologie fondamentale. Celle-ci se donnera pour mission de décloisonner les sciences humaines entre elles et de les décloisonner avec les sciences du vivant. En 1973, le paradigme perdu trace de nouvelles perspectives. Ce n'est que le prélude à son importante œuvre en 6 volumes, La méthode, qui l'occupera durant 30 ans. L'objectif de la méthode est de promouvoir une réforme de la pensée, une démarche de l'esprit qui cherche à réarticuler ce que la recherche spécialisée a séparé. Cela ne signifie pas promouvoir une pensée holiste qui abolirait les différences, mais reprendre le défi déjà posé par Blaise Pascal. Je tiens pour impossible de saisir le tout sans comprendre chacune des parties, ainsi que de saisir chacune des parties sans connaître le tout. La méthode ne prétend pas chercher une pierre philosophale destinée à résoudre tous les problèmes. À la différence du discours de la méthode de Descartes, la démarche d'Edgar Morin récuse d'emblée l'idée d'une vérité définitive, qu'il serait possible d'atteindre, et d'une connaissance absolument rigoureuse à mettre en œuvre. L'idée d'inachèvement, d'incertitude, de relativité de la connaissance est même au cœur de sa pensée. Il s'agit d'abord d'apprendre à dépasser les oppositions binaires, nature-culture, individu-société, déterminisme-liberté, sujet-objet, apprendre à combiner les déterminismes et les incertitudes du hasard, combiner entre elles les forces multiples qui s'entrelacent dans toute réalité humaine. Pour cela, Edgar Morin a mis au point quelques principes de pensée développés à partir de la méthode systémique et des sciences, de l'auto-organisation, principe de récursivité, principe dialogique, principe hologrammique. De là découle une vision du monde social où ordre et désordre se mêlent, où les actions individuelles, les événements sont à la fois produits et producteurs de la dynamique. Dynamique sociale où les phénomènes d'émergence et de bifurcation viennent briser les régularités de l'ordre social. Edgar Morin décède à Paris le 29 mai 2026. Qui suis-je ? Je réponds, je suis un être humain, c'est mon substantif, mais j'ai quelques adjectifs d'importance variable selon les circonstances. Je suis français, d'origine juive séfarade, partiellement italien ou espagnol, amplement méditerranéen, européen culturel, citoyen du monde, enfant de la terre patrie. Peut-on être tout cela en même temps ? Non, cela dépend des circonstances et des moments où tantôt l'une, tantôt l'autre, de ces identités prédominent. Comment peut-on avoir plusieurs identités ? C'est en fait le cas commun. Chacun a l'identité de sa famille, celle de son village ou de sa ville, celle de sa province ou ethnie, celle de son pays, enfin celle plus vaste de son continent. Chacun a une identité complexe, c'est-à-dire à la fois une et plurielle. La conscience de mon identité une et plurielle m'est venue progressivement. Mes parents immigrés n'avaient pas d'identité nationale. Ils avaient une identité ethno-religieuse séfarade et une identité de cité, Salonique, oasis paisible dans l'Empire ottoman depuis 1492, où la majorité de la population était juive. À la différence des Grecs, Serbes et Albanais, conquis et colonisés par les Turcs, les Juifs y avaient été accueillis et ne subissaient ni exaction des janissaires, ni persécution des Ottomans. Une partie d'entre eux, venus de Toscane, de Livourne précisément, au début du XIXe siècle, y avait apporté les idées laïques, le capitalisme puis le socialisme. Ainsi, Salomon Bérécis, mon grand-père maternel, était-il ouvertement libre penseur et enseignait-il une morale sans Dieu à ses enfants ? Mon père, jeune, ne rêvait que de Paris. La bourgeoisie séfarade de Salonique parlait le français en sus du vieux castillan, dit « Digio » de l'intérieur et judéo-espagnol de l'extérieur. Né en France, je n'eus pas de nationalité étrangère en héritage. Mes parents avaient une identité de cité en halo derrière leur nouvelle identité française. Ils parlaient en famille le « Digio », jamais avec moi, mais j'avais cet espagnol dans les oreilles. Je fus surpris en Espagne de comprendre en partie la langue et de la parler plus ou moins mal. Puis je fus très heureux de développer mon usage du castillan en Espagne et en Amérique latine. Cela éveilla en moi, qui me croyais descendant direct des expulsés de 1492 par Isabelle de la Catholique, une identité espagnole. Identité que de plus je peux revendiquer légalement, ce qui m'a été souvent officiellement proposé. Je suis devenu français naturellement, dans l'enfance, puisque mes parents parlaient le français avec moi. Et à l'école, mon esprit s'est approprié l'histoire de France. J'ai ressenti mienne cette histoire, avec des émotions fortes à l'évocation de Vercingétorix, Bouvines, Jeanne d'Arc, l'assassinat d'Henri IV, la Révolution, Valmy, la première campagne d'Italie, Austerlitz, Napoléon glorieux et Napoléon déchu à Sainte-Hélène, 1848, 1870, la Commune, la guerre de 1914-1918. Je n'étais nullement conscient des ombres de cette histoire. J'étais imprégné de ses victoires et de ses défaites, de ses gloires et de ses deuils, et je pâtissais des souffrances subies, notamment durant la guerre de Cent Ans, où la France faillit disparaître. C'est pourquoi, enraciné dans cette histoire, je me sens viscéralement français. En même temps, je découvrais que j'étais juif. C'était la chronique littéraire de Gilles Laborois. À bientôt.